VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Tatiana Mosso et Eric Manirakiza, bienvenue dans cette édition du mardi 15 mars 2016 à la une ce soir.
Attaque terroriste en Côte d'Ivoire, les autorités annoncent le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire.
Au Congo-Brazzaville, le général Mokoko reste bel et bien candidat à la présidentielle du 20 mars, contrairement aux informations faisant état de son retrait.
Monsieur Jean-Marie Michel Mokoko ne s'est jamais retiré de la course à la présidentielle. Ce matin, il est en train de battre campagne.
Présidentielle au Niger, à quelques jours du second tour du 20 mars, l'ambiance sur le terrain avec un tour d'équigé de campagne.
Nouveau mardi crucial dans les primaires américaines, les tendances pourraient se dégager ce soir dans les deux camps qui doivent s'affronter en novembre prochain pour la présidentielle.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais tout de suite le journal.
Après avoir revendiqué l'attentat meurtrier de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, a divulgué les noms des trois assaillants ayant perpétré l'attaque en son nom. Les précisions de Jacques Aristide.
L'Union européenne estime que les autorités burundaises peuvent contribuer au dialogue inter-burundais mené sous la médiation de la communauté est-africaine, comme l'a indiqué.
Et on va retrouver tout de suite Jacques Aristide. C'était une erreur technique. Donc les précisions de Jacques Aristide concernant l'attentat meurtrier de Grand Bassam en Côte d'Ivoire qui a fait 18 morts.
C'est le site d'information mauritanien Al-Akhbar qui publie l'information transmise par ACMI par le truchement d'un communiqué. Le groupe terroriste a ainsi identifié Hamza El Foulani, Abderrahman El Foulani et Abderrahman El Ansari comme étant les auteurs de l'attentat qui a fait 18 morts dimanche dans cette station balnéaire ivoirienne de Grand Bassam. ACMI affirme avoir visé et visera encore la France et ses intérêts dans les pays participant dans les opérations Serval et Barkhane contre les groupes djihadistes. Paris, de son côté, veut témoigner de sa solidarité avec la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le terrorisme avec la visite à Abidjan ce mardi des ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur, Jean-Marc Ayrault et Bernard Cazeneuve. Sur le terrain, l'enquête et le ratissage continuent. Le président Alassane Ouattara a maintenu hier soir que la Côte d'Ivoire ne se laisserait pas intimider.
Jacques Aristide. Malgré l'existence de protection, les spécialistes estiment qu'il est impossible de garantir la sécurité des cibles potentielles pour des agresseurs djihadistes, tels des plages, comme en Côte d'Ivoire dimanche, des hôtels, les terrasses de café comme à Paris en novembre ou ailleurs. Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui avait déjà revendiqué l'attaque de Grand Bassam, a annoncé qu'il a visé et continuera à viser la France et ses intérêts dans les pays participants dans les opérations Serval et Barkhane au Sahel.
En RDC, une dizaine de militants du mouvement Lutte pour le Changement ont été arrêtés à Goma ce mardi lors d'une marche pacifique alors qu'ils demandaient la libération de leurs camarades arrêtés depuis exactement un an à Kinshasa lors d'un atelier sur la démocratie. La manifestation a été dispersée par la police.
Burundi, cinq pays membres de l'Union européenne accrédités à Bujumbura sont revenus ce mardi sur la clôture des consultations au titre de l'article 96 de l'accord de Cotonou. Ils estiment que les engagements présentés par le gouvernement burundais sont insuffisants. L'Union européenne a suspendu ses appuis financiers à l'administration burundaise, mais a maintenu son soutien financier à la population et son aide humanitaire. Le point avec Christophe Nkurunziza, notre correspondant à Bujumbura.
L'Union européenne estime que les autorités burundaises peuvent contribuer au dialogue inter-burundais mené sous la médiation de la communauté est-africaine, comme l'a indiqué ce mardi à Bujumbura l'ambassadeur de France, accompagné par quatre collègues de l'Union européenne.
L'Union européenne a jugé les réponses de la partie burundaise insuffisantes, en tout cas non satisfaisantes.
L'ambassadeur de Belgique a quant à lui affirmé à Bujumbura que son pays ne va pas envoyer des troupes belges au Burundi.
Notre ministre n'a pas pris des mesures pour amener des forces d'interposition au Burundi. Ce qu'il a proposé, c'est que la Belgique pourrait s'inscrire dans des actions qui éventuellement seraient décidées dans le cadre des Nations Unies.
L'Union européenne avait projeté d'aider le Burundi à hauteur de 420 millions d'euros pour la période 2016-2020, mais avec ces mesures prises, 322 millions d'euros seront gelés jusqu'à ce que des mesures soient prises par le gouvernement burundais pour normaliser les relations avec l'Union européenne. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
C'est une première au Nigeria. 4 Mexicains et 4 Nigériens ont été arrêtés lors du démantèlement d'un laboratoire de méthamphétamine. Selon un des responsables de l'Agence nationale antidrogue, le laboratoire produisait entre 3 et 4 tonnes de méthamphétamine par cycle de fabrication et envisageait de passer à l'étape cruciale de production industrielle de cette drogue de synthèse. La police a saisi pendant l'opération 1,5 kg de méthamphétamine et a retrouvé ainsi 750 litres de méthamphétamine liquide.
Au Tchad, l'opposant historique Ngarledji Yorongar qualifie l'invalidation de sa candidature par le Conseil constitutionnel de règlement de compte. Rejetant sa candidature à l'élection présidentielle du 10 avril, cette instance avait justifié sa décision par l'absence de photos et d'emblèmes dans le dossier de Yorongar. Mais au cours d'un point de presse ce mardi à son domicile en N'Djamena, M. Yorongar a déclaré que la décision viole le code électoral.
L'article 131 évoque des documents que tout candidat doit préparer pour les produire, c'est vrai. Mais de manière descriptive, pas de manière formelle. Parce que on vous dit date et lieu de naissance, filiation, c'est immatériel. Donc le logo, vous n'avez pas besoin de produire, ni la photo. Cela relève de la CENI et non du Conseil constitutionnel. Toutefois, moi j'ai dit l'emblème et la photo sur fond rouge, avec inscription de mon nom en français au bas de la photo et fédération en arabe au-dessus de la tête sur la photo. À elle seule suffirait à m'admettre comme candidat à l'élection présidentielle. Donc c'est un règlement de compte dont je suis victime. Nagum ne disait-il pas, Yorongar avec sa gueule là, on va voir avec lui. Nagum s'est refusé d'examiner au fond mon recours gracieux. Nagum s'est rendu coupable de déni de justice.
L'opposant tchadien Ngarledji Yorongar.
À Khartoum, les forces de sécurité ont saisi, sans fournir d'explication, tous les exemplaires de l'édition de mardi du quotidien Al-Soudani, proche du gouvernement. L'action du genre a souvent visé des exemplaires de journaux ayant publié des articles critiques. Al-Soudani a été saisi pour la dernière fois il y a 5 mois.
La justice sud-africaine qualifie d'illégale la décision du gouvernement d'autoriser le président soudanais Omar El-Béchir à quitter l'Afrique du Sud en 2015, en dépit du mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pesant sur lui en rapport avec le conflit du Darfour. Les précisions de Timothée Donangmaï.
En tant que signataire du statut de Rome fondant la CPI, le gouvernement sud-africain est tenu d'exécuter ce mandat. L'occasion lui en avait été donnée en juin 2015, lorsqu'Omar El-Béchir participait à un sommet de l'Union africaine en Afrique du Sud. Un tribunal de Pretoria, saisi par l'ONG sud-africaine SALC, avait temporairement interdit au leader soudanais de quitter le territoire. Toutefois, Pretoria l'avait laissé reprendre son avion et fait appel de la décision judiciaire. Après le rejet en septembre de cet appel, l'État sud-africain avait alors saisi la Cour suprême qui l'a débouté ce mardi. Celle-ci juge illégal le refus des autorités sud-africaines d'arrêter le président soudanais. « C'est un comportement honteux », ont souligné les juges de la Cour suprême d'appel. Une décision saluée par l'ONG sud-africaine SALC. L'Afrique du Sud ne peut être un refuge pour les personnes soupçonnées de crimes monstrueux, a déclaré le directeur de SALC, Kajal Ramjatan Keog.
Au Zimbabwe, l'UNICEF tire sur la sonnette d'alarme. Quelque 33 000 enfants souffrent de malnutrition aiguë sévère, les pires chiffres en 15 ans. De son côté, Harare estime à 4 millions le nombre de personnes ayant besoin d'aide alimentaire sur une population de 14 millions d'habitants.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs dans le monde, suite des primaires américaines, les électeurs votent dans 5 États ce mardi. Côté républicain, c'est un test pour Donald Trump que ses adversaires jugent indigne de la Maison-Blanche, n'est-ce pas, Idriss Fall?
La Floride, la Caroline du Nord, l'Illinois, le Missouri et l'Ohio votent aujourd'hui. Au terme de ce super mardi 2, plus de la moitié des délégués seront choisis. C'est dire que la route reste encore longue vers l'investiture. Côté républicain, les sondages annoncent une déroute pour Marco Rubio, C'est lui, en Floride, ce qui pourrait contraindre à se retirer de la course. Donald Trump est donné favori dans les intentions de vote partout, sauf dans l'Ohio où le gouverneur John Kasich s'accroche pour obtenir la victoire sur son propre terrain. Chez les démocrates, le scrutin s'annonce plus mitigé. Hillary Clinton est favorite en Floride et en Caroline du Nord, mais les États les plus industriels du Midwest, Bernie Sanders, restent très compétitifs. En cas de résultat serré, chacun obtiendrait un nombre proche de délégués, mais cela ne va pas bouleverser la donne dans la course à la Maison-Blanche.
Un Canadien s'est réclamé d'Allah dans l'agression de deux militaires blessés légèrement, replongeant mardi le Canada dans la crainte d'attaques à caractère djihadiste, après celle menée par deux individus radicalisés qui avaient tué deux soldats à l'automne 2014. L'agression s'est produite lundi dans un centre de recrutement de l'armée canadienne à Toronto. Le suspect a sorti un couteau puis a blessé au bras le soldat de permanence au comptoir d'accueil, a déclaré mardi Mark Saunders, le chef de la police de la métropole canadienne, lors d'une conférence de presse.
Une vaste opération de police était en cours mardi dans une commune bruxelloise pour tenter d'appréhender un ou deux hommes en fuite après avoir fait feu sur des policiers venus perquisitionner dans le cadre du volet belge de l'enquête sur les attentats de Paris.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg.
La lutte contre la corruption et l'évasion des capitaux continue au Nigeria. Selon un rapport du gouvernement, la NNPC, la Compagnie nationale de pétrole nigériane, n'a pas versé 16,2 milliards de dollars provenant de la vente de brut à la Banque centrale en 2014. Toujours selon ce rapport, les recettes de vente de gaz, soit 235 millions de dollars tout de même, n'ont pas non plus été réglées au gouvernement, mais transférées sur des comptes séquestres non identifiés. Tension entre le Maroc et l'Union européenne, le roi Mohamed VI a indiqué aujourd'hui mardi compter sur une décision en sa faveur le plus rapidement possible dans le bras de fer qu'il oppose à l'Union européenne depuis l'annulation d'un accord agricole par la justice européenne, car s'appliquant au Sahara occidental. Le Maroc avait annoncé le 25 février la suspension de tout contact avec l'UE pour protester contre cette décision de la justice européenne invalidant un accord de libéralisation réciproque en matière de produits agricoles et de la pêche, au motif qu'il s'appliquait aussi au Sahara occidental, région à la souveraineté contestée. Il y a peut-être plus de pétrole que prévu au large du Sénégal. Le groupe britannique KEnergy a augmenté de près de 20% son estimation des ressources récupérables sur le champ pétrolier SNE, situé à une centaine de kilomètres des côtes du Sénégal.
C'était la Minute Éco. Merci Claire Morin-Gibourg. Et on retrouve tout de suite la page des sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Tatiana.
Football, la RDC jette l'éponge pour la CAN des cadets et des juniors.
La Fédération congolaise de football a annoncé à la CAF qu'elle retirait les sélections des moins de 17 ans et des moins de 20 ans des éliminatoires des Coupes d'Afrique de la catégorie. En conséquence, dans les éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans, qui se déroulera en Zambie en 2017, le Burundi, qui devait affronter les Léopards, est qualifié pour le tour suivant. Tandis que pour la CAN des moins de 17 ans, qui se déroulera en 2017 à Madagascar, c'est le Tchad qui se qualifie pour le deuxième tour des éliminatoires suite au retrait de la RDC.
La Ligue des champions en Europe, la suite des huitièmes de finale.
Manchester City qui reçoit le Dynamo de Kiev après son succès 3-1 à l'aller en Ukraine. Quant à l'Atlético Madrid, l'équipe devra faire la différence en accueillant le PSV Eindhoven après le match nul 0-0 à l'aller. À suivre demain mercredi, le choc à l'Allianz Arena de Munich, le Bayern face à la Juventus de Turin. On se souvient que les deux équipes s'étaient séparées sur un match nul 2-2 à l'aller. Et puis au Camp Nou, le Barça serein après son succès 2-0 à Londres contre Arsenal. Malgré la victoire à l'aller, Luis Enrique, l'entraîneur du FC Barcelone, refuse de s'enflammer avant ce huitième de finale retour.
NBA, championnat de basket nord-américain.
Stephen Curry a pu fêter son anniversaire comme il se doit. Le jour de ses 28 ans, Golden State a tranquillement battu la Nouvelle-Orléans 125-107 et enregistré sa 60e victoire de la saison. À l'Est, les leaders de la conférence ont chuté, et notamment Cleveland et LeBron James, qui se sont inclinés à Utah 85-94. À noter les victoires de Houston contre Memphis 130-80 et celles de Dallas à Charlotte 107-96.
Merci Nicolas pour l'actualité sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Tatiana Mosso et Eric Manelakiza en votre compagnie. Place au dossier du jour. Premier sujet ce soir, les attaques de Grand Bassam, Tatiana.
La Côte d'Ivoire est en deuil après les attentats qui ont fait dimanche 18 morts à Grand Bassam près d'Abidjan. Al-Qaïda au Maghreb islamique a revendiqué cette attaque et a aussi révélé les noms des assaillants présentés comme des martyrs. C'est en tout cas ce qui est paru dans le journal mauritanien Al-Akhbar. Idriss Fall a joint notre confrère Ahmed Diop, le rédacteur en chef.
D'abord, les assaillants ou l'identité de toute façon des auteurs de l'attaque sont un certain Hamza Foulani, Abdelrahman Foulani, Abdelrahman Al-Ansari. Voilà, comme d'habitude, Akimi a l'habitude de nous envoyer des communiqués et nous avons cette primauté de l'information.
Est-ce qu'on en sait plus sur leur nationalité, leurs origines?
Bon, pour le moment, ils n'ont pas donné plus de détails à part les noms. Il y a deux noms qui sont donc des noms seuls. Ça rejoint les attentats ou les attaques qui ont précédé l'attaque donc, contre la station balnéaire de Bassam, que ce soit au Mali, que ce soit également au Burkina Faso. Les auteurs, parmi eux, il y a des Peuls.
Des Peuls, on ne sait pas si ce sont des Peuls du Nigeria ou du Mali.
D'habitude, à Kini, ces derniers temps, quand ils récrutent, ils récrutent souvent des locaux. Mais pour le moment, on ne sait pas exactement est-ce que ce sont des Ivoiriens, mais on sait que la stratégie d'Akimi ces derniers temps, c'est de recruter des locaux.
Comment comprenez-vous cette extension vers le sud et des attaques jusqu'à Abidjan après les attaques de Bamako et de Ouagadougou?
D'abord, Akimi veut frapper les intérêts français, veut frapper également les pays qui sont en alliance avec la France. Un peu même avant ces attaques, on parlait du Sénégal, on parlait également de la Côte d'Ivoire et puis malheureusement, ils ont frappé la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Akimi veut simplement peut-être dire qu'ils sont capables, après l'intervention Serval, Barkhane et tout cela, ils sont capables de frapper, pas seulement au Mali ou par exemple au Niger, là où on avait l'habitude de les voir, mais au-delà, là, comme en Côte d'Ivoire, comme au Burkina. Vous savez que Burkina était un pays qui servait de médiateur pour la libération de beaucoup d'autres. Donc si Akimi frappe beaucoup de Burkina et la Côte d'Ivoire, c'est pour dire également que c'est eux qui maîtrisent le jeu, quelque part. On peut également voir la stratégie même, c'est-à-dire ce sont des hôtels contre lesquels on s'attaque. On essaie d'utiliser également des combattants locaux et on essaie également de faire le maximum dans les rangs des Occidentaux et notamment les touristes. Donc là aussi, c'est un aspect qu'il faut tenir en compte.
C'était Ahmed Diop, rédacteur en chef du journal Al-Akhbar à Nouakchott.
Terrorisme en Afrique de l'Ouest, où s'arrêteront les djihadistes? Nous en parlerons ce mardi dans notre émission interactive à 19h temps universel. Après le Mali et le Burkina Faso, c'est au tour de la Côte d'Ivoire d'être touchée au cœur. Que pensez-vous de cette hausse des attaques djihadistes? Vous sentez-vous concerné? Comment lutter au quotidien contre les idées extrémistes? Venez en débattre en direct dans notre émission interactive à 19h temps universel ou envoyez-nous votre numéro et vos commentaires sur notre page Facebook.
Au Congo-Brazzaville, le général Jean-Marie Michel Mokoko maintient sa candidature à la présidentielle du 20 mars. Il demande des articles publiés sur Internet qui parlent de son retrait du scrutin à cause d'une fraude qu'aurait organisée le camp du président Denis Sassou Nguesso. Pour clarification, Nani Talani a joint dans le nord du pays Jean Gwabi, conseiller spécial du général Mokoko.
Madame, je voudrais vous rassurer et vous assurer que M. Jean-Marie Michel Mokoko ne s'est jamais retiré de la course à la présidentielle. En ce moment où nous parlons, il était à Moussaka hier, il a quitté Moussaka ce matin, il est en train de battre campagne. Il est en direction de Evo pour battre campagne Mokoko ira jusqu'au bout. Il n'a pas retiré sa candidature, madame.
Alors pourquoi toutes ces rumeurs autour de son retrait présumé de la présidentielle?
Vous comprenez, madame, que depuis que les autres candidats s'étaient déclarés, il n'y avait pas de problème au Congo. Et dès que Mokoko s'est déclaré candidat à la présidentielle, on a commencé à avoir des ennuis, on a commencé à avoir toutes les tractations. Mokoko ne s'est pas retiré, mais c'est la peur, madame, parce que Mokoko a l'onction populaire, Mokoko est le candidat du peuple, Mokoko a derrière lui tout le peuple, il n'est pas le candidat d'un parti, mais le candidat du peuple, et le pouvoir se rend compte qu'avec Mokoko, ils sont en train de prendre de l'eau, c'est eux qui sont en train de diffuser ces fausses informations. Je vous dis que je suis conseiller spécial du candidat général Jean-Marie Michel Mokoko, et donc ces rumeurs-là sont infondées. Mokoko ne s'est pas retiré de la course à la présidence. Mokoko est candidat, nous irons jusqu'au bout.
Est-ce que le général Mokoko lui-même est au courant de toutes ces rumeurs?
Je crois qu'il ne soit pas au courant parce que depuis hier soir ici, l'Internet est coupé. Donc nous ne pouvons pas savoir s'il y a eu une telle rumeur. Il n'est pas au courant. Il bat calmement, sereinement sa campagne. Il n'est pas au courant de cette rumeur qui a gagné les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas au courant, madame.
C'était Jean Gwabi, conseiller spécial du général Mokoko.
Dans Washington Forum cette semaine, retour sur l'attaque terroriste de Grand Bassam, inédite en Côte d'Ivoire. ACMI revendique la tuerie qui s'ajoute à celle de Bamako et Ouagadougou. En moins de 4 mois, l'Afrique de l'Ouest voit rouge. Faut-il élargir le G5 dans la lutte antiterroriste? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Retrouvez-moi dans Washington Forum. C'est ce jeudi à 19h, temps universel.
Au Niger, à quelques jours du second tour de la présidentielle du 20 mars, quelle est l'ambiance sur le terrain? Notre envoyé spécial Bagassi Koura a fait le tour des QG de campagne. Voici son reportage.
La seule ambiance de campagne que nous avons pu apercevoir jusqu'à présent ici à Niamey, c'est cette musique au siège de campagne de Mahamadou Issoufou, le président sortant à l'entrée du bâtiment. Sous un soleil de plomb, un vendeur de gadgets discute avec un client. Quelques militants s'affairent dans les allées. Pas grand monde, mais à en croire le directeur de campagne de la coalition au pouvoir, Amadou Oumoudou, tout se déroule bien.
Pour nous, la campagne, c'est les équipes de terrain. Et sur toute l'étendue du territoire, nous avons nos équipes qui sont en train de tourner. C'est vrai que les gens regardent la ville de Niamey en pensant que c'est la ville de Niamey qui est le centre pour la campagne. Il y a moins d'engouement dans la ville de Niamey qu'au premier tour. C'est tout à fait normal parce qu'il y a moins d'adversité.
Aucune animation particulière non plus dans le QG de l'opposition réunie au sein de la COPA 2016. Elle a appelé au boycott du scrutin. Mais son candidat, Ama Amadou, toujours en prison, n'a pas retiré sa candidature.
Nous serons chez nous. On a demandé à tous nos militants de ne pas aller voter. Ça ne nous concerne pas, c'est un non-événement.
Halilou Taïrou est membre du bureau politique du Modem Fa-Loumana, le parti de Ama Amadou.
On ne votera pas dimanche parce que le vote de dimanche, ça sera un fiasco. C'est en ce moment-là que le boulevard sera. Parce que déjà, des gens qui ont volé au premier tour, à grande échelle, au deuxième tour, eh bien, c'est le dernier tour. Ils vont encore mettre le paquet.
L'opposition dénonce la fraude, le non-respect des règles du jeu démocratique par les institutions de l'État, mais surtout l'arrestation de son champion, Ama Amadou, qui, à ses yeux, est un prisonnier politique. Une thèse que réfute Amadou Oumoudou, directeur de campagne du président sortant.
Mais son statut n'a rien de politique et donc ce n'est pas un débat politique dans lequel il faut engager le gouvernement ou engager le PNDS.
Vous savez très bien que ça, ce n'est pas un discours auquel l'écrasante majorité des Nigériens croient.
Moussa Tchangari est leader de la société civile.
Les Nigériens n'ont pas le sentiment d'être dans un pays où la justice est réellement indépendante. Ça, vraiment, on peut le dire pour amuser un peu la galerie, parce que c'est politiquement correct peut-être de le dire.
Le Niger se prépare sans tambour à aller aux urnes dimanche prochain pour une élection qui fait déjà beaucoup de bruit. Bagassi Koura, Niamey pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez. Et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
La Russie a commencé à désengager une partie de ses troupes en Syrie. Une annonce surprise de la part de Vladimir Poutine alors que des négociations de paix entre le régime syrien et les rebelles sont en cours à Genève. Quels seront les impacts sur le sol syrien? Maïli Segel a joint Bara Mikhail, spécialiste du Moyen-Orient, à Madrid en Espagne.
Je crois que le fait pour M. Poutine d'annoncer ce retrait militaire de Syrie à un moment où il vient de s'engager dans un deal sur la Syrie avec les États-Unis est quelque chose qui nous fait penser que peut-être qu'une partie de ce deal américano-russe tournait par rapport à cette demande américaine d'un retrait russe. Mais au-delà de cela, je crois que le plus important à noter, c'est qu'on a certainement une sorte d'effet d'annonce qui transparaît à travers cette annonce russe qui correspond à mon avis en partie pour des raisons domestiques liées à l'opinion publique russe, mais également qui correspond à une volonté de la part de M. Poutine de montrer aux opposants à Bachar al-Assad qu'il est de bonne volonté. Et donc au-delà de cela, je crois que ce qu'il faut surtout retenir des évolutions en cours, c'est le fait que malgré cette annonce d'un retrait, il n'en demeure pas moins que sur le fond et dans la réalité des faits, les Russes restent en mesure d'apporter une assez considérable influence sur les orientations du régime syrien, sans oublier qu'en parallèle, l'utilisation par les Russes des facilités portuaires syriennes est quelque chose qui, pour sa part, reste maintenu. Le fait que Vladimir Poutine parle de mission accomplie à un moment où il parle d'un retrait de la Syrie consiste pour lui à dire que, conformément à ses promesses, les Russes ne sont pas restés ou ne seraient pas restés une seconde de plus par rapport aux objectifs qui s'étaient fixés.
Quels vont être les impacts sur les négociations de paix intersyriennes en cours à Genève ?
Alors, on parle beaucoup du fait que l'un des effets sollicités par ce retrait de la part des Russes pourrait être effectivement une preuve de bonne volonté vis-à-vis des opposants au régime syrien et la preuve de ce que les Russes ne sont pas entièrement, ne seraient pas à 100% en faveur du régime syrien, mais qu'au contraire, ils resteraient ouverts à des négociations de paix qui incluraient notamment des membres de l'opposition au régime syrien. Sur le plan de ces négociations, il ne faut pas oublier que certes, ce qui fait que beaucoup d'opposants au régime syrien soient disposés à prendre langue avec des représentants du régime syrien, c'est le fait que l'armée syrienne est plutôt en position de faveur, c'est-à-dire qu'elle s'est considérablement renforcée à travers les mois précédents. Mais en contrepartie, je crois aussi que sur le fond, étant donné que la demande de beaucoup d'opposants au régime syrien reste absolument la même, à savoir voir Bachar al-Assad quitter la présidence du régime syrien, je crois que finalement, peut-être que les uns et les autres renoueront langue et réussiront à discuter de quelques aspects cosmétiques ou superficiels, mais je crois que les questions de fond restent quand même pour leur part à reporter à un autre horizon.
C'était Bara Mikhail, docteur en sciences politiques et spécialiste du Moyen-Orient, joint à Madrid, en Espagne.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Lionel Runanira Gahima, à la console, Robert Wagner, présentation Tatiana Mosso et Eric Manirakis.
Ainsi va le monde aujourd'hui. La conversation se poursuit sur Facebook. Partagez ce qui fait l'actualité chez vous et vos commentaires sur nos émissions. Posez aussi vos questions qui seront reprises dans nos programmes interactifs. Tout ça sur voafrique.com. Plus d'infos 24 heures sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.